Louis-Marie, quels sont vos conseils ciné de la semaine ?
Eh bien, j'en ai trois. D'abord, un film d'animation délirant, puis un drame et enfin un mélo familial.
Alors, l'adjectif délirant m'intrigue. Que se passe-t-il donc dans ce film d'animation ?
Eh bien, tout commence par une course-poursuite digne des grands polars d'action. Elle met aux prises un policier et son fidèle compagnon de la brigade canine à un char retors et machiavélique. L'explosion d'une bombe va mettre un terme à cette cavale, une explosion qui va occasionner de graves blessures à l'agent et à son chien, qui trouveront leur salut grâce à une opération originale qui les fusionne en un seul être, Dogman, un super chien flic. Le nouveau film d'animation de Peter Hastings, produit par DreamWorks, raconte donc l'histoire de Dogman, le super chien. Adapté de la BD de Dave Pilkey, auteur aussi de Capitaine Super Slip, le long métrage suit ce héros attachant dans ses efforts pour briller aux yeux de son supérieur jaloux, tout en affrontant son ennemi juré, mon petit, le chat diabolique, celui du début, et son jeune clone, petit, mon petit. Mais face à Bubule, un redoutable poisson cyborg au pouvoir psychique, tous vont devoir s'unir. Particulièrement rythmé et bourré de gags façon Looney Tunes, vous savez, les copains de Bugs Bunny, le film mélange humour déjanté et tendresse, notamment autour de Petit Mon Petit. Rejeté par son créateur, Mon Petit, pour sa gentillesse, il est recueilli par Dogman, une belle ode à la famille recomposée. L'animation inventive mêle plusieurs styles sans jamais en faire trop, restant fidèle à l'esthétique des BD. Résultat, un film fun et intelligent, truffé de clins d'œil au cinéma qui ravira les petits comme les grands.
Après les courses-poursuites endiablées, passons au drame à présent de la semaine Louis-Marie.
Le drame, on le doit au réalisateur portugais André Gil Mata. Présenté à la dernière édition du Festival Ciné-Espagna, à la lueur de La Chandelle, son troisième film de fiction entraîne le spectateur au nord du Portugal où, depuis 60 ans, deux femmes partagent leur quotidien dans une maison qui semble encore habitée par les générations qui les ont précédées. Présents, passés proches et lointains, cohabitent dans cette demeure imprégnée de souvenirs et de fantômes. Alzira, la maîtresse des lieux, s'est consacrée à un mari austère, renonçant à son goût du piano et de la peinture. Béatrice, la domestique, a dédié sa vie à l'entretien du lieu et aux enfants d'Alzira. Elles sont désormais arrivées au soir de leur vie. Béatrice se plaint de son corps fatigué. Alzira, libérée par la mort de son mari, prend pour la première fois une décision qui n'appartient qu'à elle. À la lueur de La Chandelle se distingue par son ambition formelle centrée sur la lumière, traitée comme un personnage à part entière. Dans cette maison bourgeoise du nord du Portugal, Alzira et Béatrice cohabitent depuis plus de 60 ans. Le huis clos devient le théâtre d'une exploration du temps et de la mémoire, où les époques se confondent grâce à un montage qui joue avec la chronologie des événements. La caméra déambule lentement dans la maison, révélant peu à peu les strates du passé. Le film, pratiquement muet, s'attarde sur les gestes, les silences et les atmosphères, transformant chaque plan en tableau. L'influence de Chantal Akerman se ressent dans le traitement du personnage d'Alzira et dans la manière de filmer l'enfermement domestique. L'abandon des rêves face aux exigences du mariage est montré avec une grande économie de mots à travers une succession d'images fortes. La maison elle-même devient un protagoniste, lieu de rituels, de secrets et de mémoires. Le film mêle la douleur du quotidien à une tension sourde, évoquant parfois le cinéma horrifique où les vivants peuvent croiser des fantômes. Par sa lenteur et sa poésie visuelle, À la lueur de La Chandelle offre une méditation mélancolique sur le passage du temps et les traces qu'il laisse dans les lieux et les corps.
Et enfin, Louis-Marie, comme promis au début de notre conversation, on finit par un mélo familial.
Après deux comédies, Je suis à vous tout de suite, sorti en 2015, et Youssef Salem a du succès en 2023, la cinéaste toulousaine Baya Kasmi choisit un ton plus grave pour aborder les thèmes de la parentalité et de la marginalité. Mikado, son troisième opus, raconte l'histoire de Laetitia et Mikado, un couple qui a choisi de vivre en marge de la société avec leurs deux enfants, Nuage et Zéphyr, non déclarés à l'état civil et non scolarisés. Leur mode de vie itinérant et clandestin, motivé par les traumatismes d'enfance de Mikado, est bouleversé lorsqu'une convocation judiciaire les pousse à faire une halte à Marseille. Accueillis le temps de réparer leur camion par Vincent, un professeur veuf, et sa fille Théa, la famille découvre une autre façon de vivre. Cette rencontre, surtout pour Nuage, ouvre une brèche. Elle découvre une vie plus ouverte, faite d'échanges et de possibilités, qui contraste avec l'enfermement sécurisant mais étouffant de sa famille. L'aveu de Nuage, « Je n'existe pas », révèle la violence du retrait du monde. À travers ce récit, Baya Kasmi interroge les limites de la protection parentale et l'impact d'une éducation coupée de la société. Mikado montre aussi la nécessité d'un cadre, même imparfait, pour permettre aux enfants de s'épanouir. En confrontant le passé douloureux de Mikado avec la réalité présente, le film aborde la parentalité, la transmission des peurs et la difficulté à se reconstruire. La loi, paradoxalement, finit par apparaître comme un repère salvateur. Porté par sa réalisation douce et poétique et son casting solide, fait d'habitués, Vima Laponce et Ramzi Bedia, mais aussi de jeunes pousses remarquables, Mikado touche par la justesse de ses émotions et son regard nuancé sur la famille, entre besoin de protection et ouverture au monde.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le long du Corcovado. La Rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas pourtant, je n'y suis jamais allée. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet.